Chers amis, bonjour, bienvenue dans Planche, Cases et Bulles, où nous allons continuer à explorer les débuts de la bande dessinée, et avec ce aujourd'hui un saut de géant par-dessus l'Atlantique, où nous arrivons très tranquillement aux États-Unis, où les bandes dessinées de Top Fair, dont nous vous parlions la semaine dernière, ont été traduites, c'est-à-dire qu'elles ont été piratées, exactement comme les Français les ont piratées aussi. Bah, Top Fair n'est jamais devenu riche, parce qu'avec l'ensemble des éditions pirates dans toutes les langues, et notamment aux États-Unis, voilà, il a été pillé sans jamais en tirer profit. Christol est avec moi. Bonjour Christol.
Bonjour Richard.
Et donc, tu t'es intéressé justement à la manière dont la bande dessinée prend pied aux États-Unis et comment les États-Unis vont développer plusieurs proto-bandes dessinées qui finiront par devenir de véritables bandes dessinées telles qu'on les connaît aujourd'hui.
Oui, alors il faut se plonger dans la culture américaine, ce qui a façonné leur identité. On a en tête les super-héros des films, séries télé. Mais avant ça, il y a eu les comics, les bandes dessinées qui ont façonné leur identité. Et ça commence dès la moitié du 19e siècle. Il faut imaginer qu'à l'époque, il n'y a pas d'album en librairie. La seule façon de lire des bandes dessinées, qu'on appelle là-bas comics, c'est dans les journaux. Il y a toute une foison de journaux dans chaque ville. Dans chaque grande ville, il doit y avoir 3, 4, 5, parfois 10 journaux. Et comment attirer le lecteur? Eh bien, chaque journal essaye d'avoir sa propre page d'une petite bande dessinée qu'à l'époque est systématiquement dans le genre comique. Alors, ça s'est développé parce qu'on a inventé la photogravure qui permet la publication dans les journaux de dessins. Et il faut savoir que les dessinateurs n'étaient pas en contact avec les journaux, mais directement. Mais indirectement avec des agences de presse. Et après, l'agence de presse pouvait proposer une bande dessinée à différents journaux, à New York, Philadelphie, Las Vegas. Et donc, le passionné de bande dessinée devait collectionner parfois 15, 20, 30 journaux pour pouvoir poursuivre toutes les séries qui sortaient. Par exemple, à New York, il y avait véritablement une guerre entre deux journaux, le New York World de Joseph Pulitzer et le New York Morning Journal de Randolph Hearst, qui se sont arrachés au fil des décennies, les différents dessinateurs se les piquant au fil des sorties de leurs journaux, semaine après semaine, ils se les piquaient. Les dessinateurs passaient d'un journal à l'autre, ils allaient au plus offrant, voilà. Et chaque jour, donc, il y avait un petit comics dans le journal, et le dimanche, il y avait une version en couleur, une version colorisée pour passer un dimanche agréable.
Et surtout une version avec une version pleine page, c'est-à-dire c'était pas juste une bande, c'était vraiment toute la hauteur de la page qui était remplie par la planche du dimanche.
Oui, mais c'était des journaux, donc comme nous on lit un journal, on jette. Eh bien là-bas c'était pareil, ils jetaient les journaux avec les comics, donc on pouvait oublier ce qui se passait dans les semaines précédentes et surtout au jour d'aujourd'hui, c'est parfois difficile de retrouver tous ces comics-là parce que concrètement, ils ont été jetés par les lecteurs. Et malgré tout, il y a toute une série de titres qui sont restés dans les mémoires de l'histoire de la bande dessinée et même certains dans les mémoires de nous, lecteurs, puisque certains ont donné lieu à des films, des séries télé qui sont encore connues de nos jours.
Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ces premiers pas de la bande dessinée américaine, c'est que justement, il n'y a pas de super-héros. Les super-héros débarquent avec Superman beaucoup plus tard, dans les années 30. Mais au contraire, la bande dessinée des débuts met en scène des ouvriers, des bourgeois de la petite bourgeoisie, des bourgeois de la grande bourgeoisie, des gens subitement enrichis comme la famille Illico, Bringing Up Feather, ou The Smith de Rhea Irvine. Et on voit qu'il y a dans la manière de raconter la vie des Américains aux Américains une très grande attention à toutes les couches sociales, aux gens des villes comme aux gens des campagnes, avec Gasoline Alley par exemple. Et ça, c'est ça qui donne un charme spécial aux bandes dessinées américaines par rapport aux proto-bandes dessinées qui paraissent elles aussi dans les illustrés à l'époque en Europe, et notamment en France. On a une espèce de fibre sociale où on met vraiment en scène la vie des petites gens. Et quand il s'agit des gens riches, on les moque un peu, et notamment George MacManus qui crée la famille Illico, qui avait créé aussi les The Newlyweds. Donc les nouveaux mariés, la famille nouveau mariée a toujours le chic pour mettre en scène des gens peut-être riches, mais généralement moches, surtout les pères et les mères par rapport aux filles et aux garçons, dire aux enfants qui eux sont évidemment tirés à quatre épingles et qui ressemblent à des gravures de mode. Et c'est ça qui m'a beaucoup frappé avec par exemple The Yellow Kid. Ou parfois, c'est moins une bande dessinée d'ailleurs qu'une espèce d'immense planche avec énormément de personnages et un gamin habillé d'une espèce de robe jaune beaucoup trop longue pour lui et qui donc est une espèce de garçon des rues et qui va en fait montrer comment dire, la pauvreté de la société capitaliste finissante. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces dessinateurs de bandes dessinées sont aussi des éditorialistes politiques. Tu citais, ou tu n'as pas encore cité, Little Nemo de Winsor McCay. Winsor McCay est un éditorialiste célèbre dont les dessins extrêmement travaillés sont aussi percutants, justement, qu'un long éditorial. Et il avait à l'époque le même poids, si j'ose dire, que Jacques Faizan dans Le Figaro.
Effectivement. Et au fil de ces comics, qu'on appelait à l'époque funnies, parce que c'était souvent pour faire rire, va se créer la bande dessinée américaine. Petit à petit, on va retrouver des bulles, des séquences, de grandes histoires. Mais ça, c'est plutôt vers la fin. Au début, comme tu l'as dit, il y a The Yellow Kid. Donc, c'est des petites scénettes humoristiques, mais aussi sociales, qui font une planche. Et assez rapidement, par contre, on va vouloir construire des récits davantage dans le temps. Et donc, si je te cite The Katzenjammer Kids, est-ce que ça fait penser à quelque chose? Un piège.
Oui, non, enfin, ouais. Mais manque de peau, j'ai révisé moi aussi, c'est Pim Pam Poum.
Pim Pam Poum, exactement.
Voilà. Qu'on a
Produit en
tous
France.
découvert dans Mickey, mais qui aussi paraissait dans L'Aurore à un moment donné.
Ouais.
Voilà, et même dans Le Figaro, qui pendant un temps a conservé l'idée de ces bandes dessinées. C'est le moment d'avouer que quand j'étais étudiant, je gagnais ma vie en traduisant des comic strips. Et donc, je retraduisais Mandrake le magicien. The Phantom, autrement dit l'ombre qui marche, et Beetle Bailey. Et donc, voilà, j'ai été nourri aussi, au sens propre d'ailleurs, puisque c'était des sous, j'ai été nourri des comics américains.
Alors, celui-ci a été créé en 1897, donc c'est très ancien, Pim Pam Poum. Il est amusant de révéler que c'est en fin de compte des immigrants allemands qui vont sur une île tropicale imaginaire qui s'appelle Bongo. Ils rencontrent un roi fainéant. Et donc, il y a des enfants, Pam et Poum, qui font plein de petites blagues. Et donc, il est amusant de noter que pendant les deux guerres mondiales, on a remplacé l'origine allemande par l'origine néerlandaise. Il fallait pas faire croire que le journal américain pouvait soutenir l'Allemagne durant la Première Guerre ou la Deuxième Guerre mondiale. Mais tout ça reste quand même de la bande dessinée qui n'est pas encore véritablement un art. On ne peut pas s'en émerveiller. Mais assez étonnamment, sans doute que la première bande dessinée qui vraiment à mes yeux est un art, c'est Little Nemo dont tu as parlé, et ça sort dès 1905. Donc à peu près un quart de siècle avant Hergé. Là, franchement, on a un auteur, Winsor McCay, qui publie de très belles planches. Son trait est fin. Il y a une magnifique colorisation et il y a des récits qui à chaque fois font une planche, qui sont d'une grande créativité semaine après semaine. À chaque fois, ces mêmes scénarios. C'est un enfant. On découvre le rêve d'un enfant. Un rêve assez extraordinaire puisqu'il va dans le monde des rêves où il vit des aventures. Ça ne dure qu'une planche et à la fin de la planche, il se réveille. Soit il tombe du lit, soit sa mère le réveille en le poussant dans tous les sens. Et effectivement, il faut imaginer que pendant, je ne sais plus combien de temps, mais pas mal de décennies, le public américain a adoré cette petite série Little Nemo, qui est peut-être vraiment comme je disais, la première œuvre artistique de la bande dessinée mondiale.
Alors, qui a été traduit. Alors, je ne suis pas forcément totalement d'accord avec le fait que c'est la première œuvre artistique de la bande dessinée mondiale, mais c'est vrai que c'est un feuilleton très long. Et tu avais raison de rappeler l'origine de la bande dessinée indéfectiblement liée au quotidien. C'est-à-dire, voilà, donc d'emblée, la bande dessinée a été feuilletonesque. Alors, soit parce qu'on retrouvait les personnages avec des histoires closes sur elles-mêmes, voilà, en trois ou quatre cases ou en une planche, l'histoire est finie, mais les personnages sont récurrents, soit parce que effectivement, à un moment donné, on se lance dans de véritables histoires au long cours. Little Nemo, au début, se réveille à la fin de chaque rêve, et puis peu à peu, les rêves s'enchaînent et il finit par aller explorer Slumberland, donc ce pays du sommeil où règne un roi débonnaire avec un nombre incroyable de serviteurs et d'animaux fantastiques. Alors, ça a été publié par Pierre Auray, entre autres, ça a été réédité à plusieurs reprises. Il y a plusieurs éditions, dont certaines luxueuses et parfaitement scannées et travaillées pour ce qui est des couleurs. Dans le format original des planches initiales, ce qui rend la lecture plus simple. C'est pour tous les amateurs de bande dessinée, c'est vraiment très intéressant. En travaillant un peu la question, je suis tombé sur une autre bande dessinée dans le même genre, qui est Madge, The Magician's Daughter, Madge, la fille du magicien, dessinée par un certain Wilson, qui a duré 2 ou 3 ans. Et où il y a le même principe d'une composition extrêmement décorative de la page, avec généralement une vignette centrale, un peu comme Prince Vaillant d'Al Foster ou certains des Tarzans, et avec une inventivité incroyable, puisque Madge, la fille du magicien, emprunte régulièrement la baguette magique de son père et répète maladroitement les formules du papa, et ce qui fait qu'elle, au lieu de créer exactement ce qu'elle attend, notamment voilà, des tournesols magnifiques ou des rossignols enfermés dans une cage, elle crée une fontaine avec des crocodiles qui en jaillissent. Et donc, il y a un délire visuel qui est l'équivalent de Little Nemo in Slumberland, et qui, je ne sais pas pourquoi, Madge, la fille du magicien, n'a pas eu l'honneur d'une traduction française, ou en tout cas, je ne m'en suis pas rendu compte, et moins célèbre. Mais voilà, il y a vraiment, et tu avais raison d'insister là-dessus, dans ces planches du dimanche, une débauche de couleurs absolument admirable et qui a été très très bien utilisée par les artistes de l'époque.
Alors heureusement que nos journaux de gauche nous mettent en garde contre la lecture de Little Nemo, puisque parfois cet enfant dans ses rêves va lutter contre une tribu de noirs cannibales. Et quand on voit la famille de Little Nemo, ce sont des bourgeois. Et donc ces journaux de gauche dénoncent un racisme bourgeois. Ce sont nos intellectuels français qui, un siècle après la sortie de cette bande dessinée, essayent encore de voir quelle était la lecture idéologique derrière, sans se placer concrètement à l'époque où l'opinion était très différente de celle d'aujourd'hui.
Et sans connaître d'ailleurs les opinions de Winsor McCay, qui n'était pas du tout raciste, et qui justement dans ses éditoriaux politiques en témoignait.
Je pense qu'après, on peut faire un petit bond presque d'un quart de siècle pour arriver aux grandes séries des comics. Et il y en a encore une qui est plutôt d'ordre social et comique, drôlatique, c'est Popeye. Popeye, on le connaît à travers le dessin animé, mais ça a été créé en 1929 par Elsie Chrysler Segar. Et dans cette bande dessinée, comme une autre dont tu parlais avant, on dénonçait déjà certaines valeurs de la société américaine fondées sur la famille et l'argent. Et effectivement, Popeye, lui, était plutôt une série, encore une fois, réalisée par un artiste plutôt de gauche. Dès 1929, en même temps, c'était la crise de 29 qui arrivait, donc on pouvait comprendre aussi qu'on s'inquiétait peut-être du régime capitaliste. Et ce n'est qu'à partir de Popeye que se sont développées les grandes séries d'aventures. Et alors là, à partir de là, effectivement, on précède les super-héros, mais on est dans les grandes séries d'aventures, et on a l'impression que ce qui va vraiment obtenir le plus grand succès aux États-Unis maintenant, c'est l'imaginaire. C'est l'aventure. On fuit le monde du réel et on a coup sur coup de grandes sorties dont on va peut-être parler. C'est Tarzan, Buck Rogers, Flash Gordon et Dick Tracy, dont tout le monde connaît encore le nom. Et ce sont des héros parfois tirés de romans comme Tarzan, parfois inventés comme Rogers, Gordon et Tracy, qui ont donné lieu par la suite à des séries télé, des films pour le meilleur et pour le pire. En commençant peut-être par Tarzan, qui est sans doute le plus connu. Alors Tarzan, comme on le sait, c'est pas une invention du monde des comics. Hein. C'est tiré des romans de
D'Edgar Rice Burroughs.
Burroughs, voilà, en 1912. Et effectivement, on demande à un publiciste, un dessinateur de publicité, qui s'appelait comment s'appelle déjà
Al
l'auteur de
Foster.
Tarzan? Al Foster, voilà, je le connais pour Prince Vaillant. Qui, eh ben c'est lui qui dessine Tarzan, et puis effectivement, c'était un coup de maître. Alors Tarzan, c'était une grande réussite, et ça a duré très longtemps, jusqu'en 1935 par Foster, puis après, ça a continué par d'autres dessinateurs pendant des décennies et des décennies. Et je dois avouer que j'ai jamais lu Tarzan par Al Foster, je viens de le commander, j'ai dû lire tous les Princes Valiants, mais Tarzan, c'est du même esprit. Donc c'est un très beau dessin, une très belle colorisation à partir du moment où c'était en couleur. Beaucoup d'aventures. Au fil des semaines, Foster s'est apparemment détaché des romans d'origine pour créer ses propres aventures. Et c'est eu tellement de succès que, ne serait-ce que 3 ans après la sortie de ce comics, on a déjà le film à grand succès qu'on a tous vu, Tarzan, avec le
Johnny
champion
Weissmuller.
autrichien de la Johnny Westmuller. Donc, effectivement, c'est l'un des premiers grands héros de la bande dessinée qui a donné lieu aussi à un film Tarzan.
Alors, c'est Al Foster, tu l'as dit tout à l'heure, on le connaît surtout pour Prince Vaillant. Effectivement, il a dessiné Tarzan avec toujours cette idée que j'emprunte à Benoît Peters de soit d'une mise en page décorative, et par exemple, pour donner un exemple qui est peut-être plus familier à nos auditeurs, la manière dont Tardi ou Jacob organisent toute la mise en page avec des principes de symétrie autour d'une vignette centrale, et on sent que la composition de l'espace est d'abord une composition décorative dans laquelle on va finir par rentrer vaille que vaille les images et le texte, ou au contraire une mise en page dynamique et articulée sur le récit lui-même, avec les belles planches de Little Nemo que tu citais tout à l'heure ou que tu évoquais, avec par exemple au fur et à mesure que les personnages deviennent gigantesques, et bien les cases s'allongent pour accueillir le gigantisme des personnages, et au fur et à mesure que la caméra s'éloigne, et bien les cases rapetissent pour témoigner du fait que les personnages eux-mêmes sont plus petits à cause de l'éloignement, ou plus petits à cause de je ne sais quel charme. Et Foster est vraiment, lui, le roi de la mise en page décorative, avec parfois une liane qui, à elle seule, anime toute la page, et on distribue autour de la liane tout le texte et toutes les images. Tu avais raison, tu as cité Mandrake, voilà, qui n'est pas encore un super-héros, mais qui est un véritable magicien, avec ce côté élégant, le chapeau claque à 8 reflets, évidemment ses fiancés impeccables, parce que qu'il s'agit de Mandrake, de Flash Gordon, de Brick Bradford, de Terry et les pirates, il y a toujours une fille qui est impeccablement habillée, avec un chignon qui ne se défait jamais, quel que soit le gorille qui l'enlève, la fusée qui s'envole, le japonais qui l'attaque, et donc elle est impeccable, elle est brune, elle est blonde, quand elle est blonde elle a les cheveux dénoués, quand elle est brune elle a un chignon, c'est des espèces de codes qui ne changent pas. Si jamais certains auditeurs habitent Paris, courez d'ailleurs à l'exposition Kling qui a lieu en ce moment, et vous verrez les planches originales d'une partie des bandes dessinées que nous sommes en train de citer. D'ailleurs vous serez surpris de la taille justement de ces planches originales qui sont très grandes. Il y a parfois ce comic strip qui fait 5 cm de haut, c'est en fait une planche qui fait 30 cm de haut, et donc qui est terriblement réduite au moment de la reproduction mécanique. Et il y a une inventivité, mais il y a aussi évidemment une naïveté, une espèce de vulgarité. On sent que l'imaginaire américain, c'est le Far West, la conquête, les mondes inconnus ou prétendument tels. Et donc, il réinvente l'Afrique, il réinvente l'Amérique, il réinvente le monde. Brick Bradford, à un moment donné, se promène dans un vaisseau spatial à l'intérieur d'une pièce de monnaie. Donc, on est en pleine dépression, et donc dans un synth. en cuivre. En fait, c'est une galaxie atomique complète. Et donc, Brick Bradford y voyage. De tous ces titres qu'on cite, et tu le disais tout à l'heure, Christol, sont parfois disponibles, alors, soit en langue étrangère. Fantagraphics, par exemple, est un excellent éditeur avec toute une sélection de rééditions. Mais il y a aussi des éditeurs français qui réimpriment ces grandes sagas de la bande dessinée et qui poursuivent en quelque sorte ce que Futuropolis avait commencé à faire avec sa collection Copyright dans les années 70-80, où on pouvait enfin retrouver quelques-uns de ses albums. Et aussi, il y avait Slatkin qui avait commencé à réimprimer. La qualité d'aujourd'hui de ses reproductions est incomparable. Et surtout, chaque éditeur fait un effort pour avoir un appareil critique sur la manière dont la bande dessinée a été composée, qui est le propriétaire des droits, puisque donc tu l'as dit tout à l'heure en une seule phrase, ces héros naissent et ensuite poursuivent, et il n'y a pas du tout l'idée d'un auteur qui serait à lui seul propriétaire de la chose, ou en tout cas c'est beaucoup moins fréquent, et l'auteur d'ailleurs se cherche parfois un repreneur quand il ne meurt pas brusquement pour que l'œuvre continue et qu'il puisse continuer à bénéficier d'une partie des royalties associées à l'œuvre. Donc il y a certaines bandes dessinées qui ont comme ça 50, 60, 70, 80 ans de développement parce que le succès étant là, eh bien le flambeau, le crayon plutôt, a été passé de main en main.
Et ensuite paraissent les deux grandes séries de science-fiction. D'abord Buck Rogers le 7 janvier 1929, le même jour que Tarzan. Puis, pour le concurrencer, en 1934, Flash Gordon. Alors, ce sont deux séries de science-fiction assez proches. C'est de l'aventure, c'est amusant. À chaque fois, le héros est accompagné d'une jolie fille. Et à chaque fois, il lutte contre un méchant plutôt d'origine asiatique. Dans Buck Rogers, il faut imaginer que l'Europe et les États-Unis ont été envahis par des totalitaires venant d'Asie, qu'on appelle les Mongols Rouges. Et donc, Buck Rogers part dans l'espace. Et dans Flash Gordon, également, là, Flash Gordon part dans l'espace et va lutter contre l'empereur Ming, également avec des traits asiatiques, un tyran cruel. Et à chaque fois, il est accompagné d'une belle jeune fille. Donc, Flash Gordon est la copie de Buck Rogers. Ce sont deux concurrents. Il faut aimer. C'est la science-fiction plutôt adolescente, de l'aventure, des jolies filles, de l'humour. Mais en tout cas, ça a beaucoup plu juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et là, déjà, petit à petit, on se dit que les deux grandes autres œuvres américaines vont sortir. C'est d'une part les super-héros, d'autre part Mickey, plutôt qu'une autre dans le monde du dessin animé que de la bande dessinée. Mais donc, autrement, on arrive aux super-héros. Mais il y a aussi d'autres récits encore. Il y a aussi des policiers. Il y a Dick Tracy qui est resté dans les mémoires, sans doute pour évoquer déjà la lutte contre la pègre à Chicago dans les années 30. Et toutes sortes de récits font naître, tellement il y a de journaux, tellement il y a d'idées. Les comics sont innombrables. Et petit à petit, vont apparaître, on en reparlera plus tard, les comic books.
Voilà, tout à fait, les comic books. Et donc, avec des illustrés qui sont entièrement consacrés à ces planches et à ces bandes. Voilà, on se passe du journal quotidien, ou plutôt le journal quotidien continue à avoir ses propres séries, mais le marché véritablement de la bande dessinée populaire a maintenant sa propre presse, qui connaîtra d'ailleurs quelques heures et malheurs, puisque une partie de la censure américaine va s'abattre avec une certaine rigueur sur toutes ces séries qui effectivement puisent allègrement dans l'horreur et qui présente quelques dessins effrayants et quelques histoires saumâtres. On a cité mille choses. Bon, en parallèle, évidemment, là, on est fixé sur les États-Unis, mais la France et l'Europe continuent à développer ses propres histoires. Alain Saint-Auguin crée Zig et Puce en 1925. Il n'y a pas qu'Hergé qui règne et les illustrés existent. Voilà, on avait parlé de la famille Fenouillard, mais Carandache aussi a écrit des bandes dessinées. Une fois plus, je ne peux que vous renvoyer d'une part à Topferiana, donc le site sur les histoires séquentielles, mais aussi à un très bon livre qui était paru aux éditions des Impressions Nouvelles, une maison d'édition belge, et qui rassemble un nombre incroyable de planches d'histoires en images, donc qui sont des proto-bandes dessinées ou de véritables bandes dessinées avant Tintin. On a couru à grande guide en citant beaucoup de personnes. Je voudrais juste témoigner de quelque chose qui est une science toute neuve chez moi, c'est la manière dont Little Nemo in Slumberland de Winsor McCay a vraisemblablement pompé des histoires en images parues 15 ou 20 ans auparavant en Europe, qui était édité par l'imagerie artistique Quentin, avec Quantin, et notamment Job et Rip, qui avaient vraiment imaginé, d'abord le premier, l'histoire d'un petit garçon qui rêve et qui finit par tomber de son lit, et avec une histoire identique où le petit garçon chevauche en fait son cheval de bois et se retrouve en plein ciel, exactement comme une des premières planches de Little Nemo, et une autre planche de Rip où on a cette décomposition si originale de l'espace avec, au fur et à mesure que l'échafaudage se monte, et bien la cage s'augmente, et au fur et à mesure que l'échafaudage se casse la figure, la case diminue, qui est exactement l'un des procédés rhétoriques qu'a employé Winsor McCay. Chers amis, on est arrivé quasiment au bout de cette demi-heure. J'ai oublié de vous dire, mais a-t-on besoin de le répéter? Oui, si, quand même un peu. Nous n'existons que grâce et par vous. Donc, merci beaucoup de nous aider à passer l'été en nous envoyant une obole, la plus minime qui soit, soutenir.rc.fr. C'est le site sur lequel vous pouvez envoyer vos dons, ou sinon, adressez-nous un chèque au 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Et évidemment, dans tous les cas, vos dons seront défiscalisés. Non seulement vous nous aidez, mais en plus, vous en donnez moins à l'État français. Merci beaucoup et merci Christole. Et à très bientôt sur Radio Courtoisie pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer la bande dessinée des origines.